en dire et des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. C'est une invitation au voyage que nous vous lançons aujourd'hui dans VMDN. Un voyage musical en Argentine, pas du côté de Buenos Aires, mais dans le nord-est du pays à travers les rythmes et les danses du folklore argentin. La chacarera, la samba avec un Z s'il vous plaît, ou le chalamé. Notre guide, Mandy Le Rouge, une jeune artiste dont le premier album, La Madrugada, sortira l'année prochaine, mais qui nous en livre déjà 4 titres en guise d'apéritif réunis dans un premier EP, El Cosechero, le premier EP donc de Mandy Le Rouge vient de sortir, et vous m'en direz des nouvelles.
Del Chaco quebrachera y montarás, prenderán mi sangre con ronco sapucay, y será en el sur con mi sombrero bajo el sol faro de luz.
Bonjour Mandy Le Rouge.
Bonjour Jean-François Cadet.
El Cosechero, c'est, je l'ai dit à peu près correctement.
Vous l'avez très bien dit, El Cosechero.
Merci, c'est donc le premier titre de ce premier EP hein, qui se traduit par Le Moissonneur. C'est une chanson qui est un rythme, une danse typique de la région littorale, c'est ça, en
ça Argentine. Vient du nord-est de l'Argentine, c'est un rasquito doble, c'est un cousin en fait, du chamamé.
D'accord, c'est une chanson qui compte l'histoire de récolteurs de coton, c'est bien ça? De quoi est-ce qu'elle nous parle cette chanson?
Exactement, elle parle de la difficulté du travail, de la récolte du coton, mais aussi on y met toujours une petite touche de poésie, c'est un peu ce qu'on retrouve dans beaucoup de textes du folklore argentin, même si on parle de la difficulté de la vie, du quotidien, du travail, on y rajoute cette poésie et notamment dans El Cosechero, il est question de flocons de coton qui volent et dans lesquels on se perd un peu dans ces chants.
D'accord, donc c'est extrêmement visuel en même temps. Quand on est né comme vous dans les Hautes-Alpes, quand on vit à Marseille, comment est-ce qu'on rencontre les musiques argentines ?
Lors d'un voyage, et même d'un voyage dans le voyage, puisque je suis partie pour la première fois et la seule fois jusqu'à maintenant en Argentine en 2014, pas du tout pour la musique du folklore, en tout cas à l'époque, puisque j'y suis allée pour danser le tango et pour rencontrer le peuple cavalier des gauchos, puisque je suis cavalière depuis petite. C'était un rêve d'adolescente de partir dans le nord de l'Argentine, rencontrer ces gauchos. Et j'ai quitté Buenos Aires, j'ai dansé un peu quelques jours le tango, je suis partie dans le nord, plutôt le nord-ouest en fait, la région de Salta, et j'ai pris un bus à Salta pour aller encore plus au nord, du côté de Tilcara. Et dans ce bus, il était 4 ou 5 heures du matin. J'étais à moitié endormie, les paysages de montagne qui défilent dans une couleur un peu rose, orangée comme ça. Et là, un chauffeur de bus qui écoutait le folklore argentin, la chacarera en l'occurrence, à fond dans le bus, alors que j'étais à moitié endormie.
D'accord.
Et j'ai un souvenir comme ça de cette découverte de ces musiques à moitié assoupies et un peu dans une sorte de rêve, de paysage qui défile, de couleurs et de sonorités.
Mais ça suffit pas pour en faire un album, vous abandonner le tango et passer au folklore, alors expliquez-nous.
Alors non, ça ne suffit pas, alors effectivement c'est resté dans un coin de tête, mais j'ai pas trop creusé plus que ça à cette époque-là. Ça a été un petit avant-goût pendant ce voyage-là. Je suis restée très peu de temps en Argentine, hein. C'était l'histoire de 15 jours, un voyage assez court. Je suis revenue en France et un an plus tard, là, j'étais à Paris, au musée du Quai Branly. Un peu par hasard, j'ai assisté au concert de Chango Spasiuk, donc un accordéoniste argentin qui est un des grands représentants du chamamé, donc musique du nord-est de l'Argentine. Et là, j'ai été bouleversée comme jamais. J'ai été bouleversée en assistant à un concert. Encore aujourd'hui, j'explique pas vraiment ce qui s'est passé, mais il y a eu ce que j'appelle encore à présent un coup de foudre culturel, puisque j'ai pas vraiment d'autres explications à cette attache comme
mais,
ça à ce moment-là.
Mais qu'est-ce qui vous a touché dans ces musiques argentines ?
À l'époque, c'était vraiment la musicalité. Une musique qui m'a vraiment, j'ai été prise aux tripes en fait, par aussi bien quelque chose d'assez nostalgique, mais en même temps de joyeux. On sentait dans la manière de chanter, dans ce que j'ai entendu, en tout cas à l'époque, quelque chose de jovial, et en même temps dans la manière dont c'était composé, quelque chose d'assez nostalgique, puissant. Dans Chango Spasiuk, c'est un accordéoniste, donc il y avait le côté très nostalgique de cet accordéon, et en même temps, voilà, cette envie de, ça se ressentait aussi, ce partage, cette envie de partager cette musique, cette culture-là. Le côté aussi de la dimension très culturelle, qui n'était pas juste une musique, mais quelque chose qui est très relié au quotidien, en fait.
Alors justement, faites-nous rêver un petit peu, parlez-nous des les gens que vous avez rencontrés dans ces régions d'Argentine que vous avez traversées et qui sont elles-mêmes traversées par cette musique?
Alors, moi, j'ai surtout rencontré finalement des Argentins en France. Mais lors de ce voyage, j'en ai quand même rencontré, évidemment, et notamment dans ce nord-ouest, lorsque j'étais à cheval, j'ai rencontré ces gauchos, donc le peuple cavalier qui travaille le bétail, qui fait du tri de chevaux, qui est au quotidien avec les chevaux. Et j'ai pu passer un peu de temps avec eux, découvrir un peu cette région à cheval, et notamment partager dans leur quotidien, c'est très simple, hein, ça va être le repas du midi, ce qu'on appelle l'asado, quelque chose qui est très ancré dans la culture argentine, qui est en fait le barbecue, en fait, hein, mais qui est quelque chose où il se passe beaucoup plus de choses que juste manger. C'est on se rassemble, on prend les guitares, les accordéons, chacun prend un instrument de musique. Si on ne sait pas jouer la musique, on va danser et on partage. On partage cette musique, on partage toute cette culture, cette danse, puisque ce sont des musiques qui sont vraiment très lié à la danse. Les enfants apprennent aussi bien les musiques que les danses à l'école. Ça, je l'ai su beaucoup plus tard, à Marseille d'ailleurs. J'ai appris tout ça au contact des Argentins qui sont à Marseille. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu, ce côté où la musique, la danse sont ancrées définitivement dans le quotidien de chacun.
Para que quiero vivir con el corazón deshecho, para que quiero la vida después de lo que me has hecho. Yo te di mi corazón, vos el tuyo me entregaste, pero luego con engaños prenda lo despedazaste. Ay, ¿por qué fuiste tan cruel si tu cariño esperaba? Conmigo prendas y te idolatrando. Seguí guitarra, seguí, seguí como yo llorando, compañera hasta la muerte, seguí mi alma consolando.
Carrera de un triste, autre extrait du premier EP de notre invité Mandy Lerouge avant la sortie de son premier album prévu pour l'an prochain. Alors présentez-nous en quelques mots ces musiques traditionnelles que l'on peut découvrir sur le disque. Il y a donc la chacarera, il y a aussi la samba et le chalamé. On va commencer par la chacarera puisque c'est ce que nous entendons en ce moment.
Donc là on entend effectivement une chacarera, donc c'est un rythme qui vient du nord-ouest de l'Argentine, plutôt de la région de Santiago del Estero. C'est vraiment la capitale de la chacarera. Et une des particularités, c'est notamment dans l'instrumentarium, on a pu entendre un tambour très sourd qui s'appelle le bombo leguero, qui est vraiment typique de cette région, typique de cette musique, et qui moi m'a énormément accroché quand j'ai entendu les premières fois aussi du folklore argentin. C'est ce côté très relié à la terre, qui ressemble au battement du cœur aussi, et c'est ce qu'ils disent les Argentins quand ils parlent du bombo leguero. Leguero, c'est la lieue en fait, pour dire qu'ils peuvent communiquer d'un village à l'autre à distance grâce à ce tambour qui est très puissant et qui a un son voilà, très sourd, très proche de la terre, du battement du cœur et aussi du pas du cheval. C'est l'idée de ce bombo leguero et de ces rythmes qui mènent la danse aussi, puisque je le répète, c'est des musiques qui sont très liées à la danse et c'est une danse de couple, la chacarera, qui se danse face à face. Et il n'y a pas de contact en fait entre l'homme et la femme dans ces danses-là, c'est face à face et il y a une espièglerie. C'est vraiment l'homme et la femme où les deux partenaires sont vraiment à égalité dans une sorte de jeu de séduction très festif.
La samba, alors ça n'a rien à voir avec la samba brésilienne, il ne faut
rien
pas confondre.
À voir. On a un Z d'ailleurs, comme vous l'avez dit en introduction, la samba vient de la région de Tucumán, on est toujours sur le nord hein, de l'Argentine, Tucumán qui est aussi connue pour être la capitale des empanadas, mais ça fait vraiment débat au sein des Argentins, donc ouais. Je ne vais pas trop me lancer dans ce genre de thématique. Capitale de la samba qui est un rythme beaucoup plus lent, nostalgique, romantique, qui dans les textes parle beaucoup de la nature, de la beauté des paysages et parfois même se sert de la beauté du paysage pour décrire des sentiments très profonds intérieurs, des personnifications aussi, du vent, de la lune. On parle beaucoup à la lune dans les sambas. Et on reste, il y a toujours le bombo leguero aussi dans la samba.
Et puis donc le chalamet, dont d'ailleurs Chango Spaciuk, qu'on évoquait tout à l'heure, est l'un des grands spécialistes, hein, je crois.
C'est ça, donc le chamamé.
Voilà.
Donc c'est nord-est de l'Argentine. Là, c'est un peu différent sur l'instrumentarium, puisqu'on descend des Indiens Guarani, cette fois-ci. Et c'est vraiment une musique de métissage qui, moi, était la première, en fait, hein, à m'accrocher sur le folklore argentin. On descend des rythmiques Guarani, donc il n'y a pas de bombo leguero dans le chamamé. L'instrumentarium, c'est plutôt guitare, violon, accordéon, bandoneon aussi, mais surtout accordéon, puisque c'est né du métissage entre les rythmiques des Indiens Guarani. Les missions jésuites sont passées par là avec la musique baroque et ont eu leur influence. Les Espagnols ont amené leur guitare et il y a eu vague de migration d'Europe de l'Est avec les accordéons. Et tout ça s'est mélangé.
Une musique métissée.
Un vrai métissage. Et c'est ce qui aussi m'a plu symboliquement, c'est vrai. On ressent vraiment cette nostalgie de l'accordéon d'Europe de l'Est, ces guitares plus rythmiques qui se mélangent vraiment dans une musique très métissé.
Et donc, on vous entendra sur l'album chanter en langue guarani ?
Alors, pas vraiment tout en langue guarani, mais disons que dans le chamamé et aussi dans certaines chacareras, il y a des clins d'œil à la langue guarani, qui est toujours parlée dans ces régions du nord-est de l'Argentine, notamment Misiones, Corrientes, ces régions qui sont limitrophes avec le Brésil, la région de Misiones et du Paraguay. Et il y a des mots qui restent, en fait, au milieu des phrases. Il peut y avoir des noms de vents, notamment le Huayramuyosh, qui est le nom d'un vent qui est resté en Guarani. Il peut y avoir des noms d'oiseaux, des noms d'arbres. C'est souvent des mots liés à la nature. Alors, il y a aussi des textes qui sont entièrement en Guarani ou en Quechua, de l'autre côté, nord-ouest. Mais je me suis pas aventurée là-dedans, puisque pour trouver des traductions, là, c'est très compliqué. Et je trouvais ça quand même important de savoir exactement ce que je raconte dans le texte.
Mais alors, justement, Mandy Le Rouge, ces musiques très folkloriques, très ancrées dans un territoire, dans une culture, comment est-ce que vous les êtes appropriés vous-même ? Parce que il fallait évidemment que la patte Mandy Le Rouge soit présente aussi dans ces musiques. Comment est-ce qu'on introduit aussi cet élément plus personnel-là ?
Alors, disons que quand on se lance, moi j'ai eu un peu d'appréhension quand même en décidant de me lancer vraiment dans ce répertoire, parce que je m'attaque à quelque chose qui est traditionnel, qui vient d'une culture, vraiment qui a une histoire. Il y a eu de très grands chanteurs et chanteuses de folklore argentin, Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui. Bon, c'est difficile de se lancer dans ce créneau-là, en plus en n'ayant aucune origine argentine. Donc j'avais un peu cette appréhension.
Et d'être une étrangère, d'être...
Oui, c'est ça.
Presque illégitime pour s'attaquer à
exactement,
ça.
Exactement, exactement. Et en fait, j'ai été accueillie avec énormément de bienveillance déjà par les Argentins quand je me suis lancée dans ce répertoire-là. Donc ça m'a poussée évidemment à continuer. Et puis ce qui pouvait être une faiblesse, que je pensais pouvoir être une faiblesse, le fait que je sois pas hispanophone, que je suis pas bilingue, je comprends ce que je chante mais je suis pas bilingue, que je sois pas argentine, j'ai décidé d'en faire, si ce n'est une force, en tout cas une particularité du projet. Donc j'ai un léger accent espagnol quand je chante, mais je vais pas le gommer. Tant que je ne fais pas d'erreur et que je respecte les textes et les musiques qui ont été écrites et composées auparavant, j'ai pas envie de me faire passer pour une argentine et j'ai pas envie de faire comme les Argentins, puisque je serais bien incapable de faire ce qu'ils font eux depuis la naissance ou en tout cas depuis l'enfance. Donc on a décidé avec Lalo Zanelli, qui est le pianiste et arrangeur du projet, de proposer des arrangements. C'est lui qui signe tous les arrangements de l'EP et du futur album, pour aller dans une direction qui soit plus proche de ma propre culture musicale.
Donc un peu plus proche du tango aussi, puisque vous venez aussi de là. Alors, et que lui a travaillé avec Gotan Project notamment.
Moi je viens du tango mais plus par la danse, j'ai jamais chanté de tango, mais surtout moi j'ai une expérience plutôt proche du jazz, j'ai une voix plutôt avec des sensibilités.
Et là aussi Gotan Project c'est pas très très éloigné.
Exactement,
non plus.
C'est ça. Donc on avait envie d'amener à la fois cette touche actuelle et qui tend un peu vers le jazz. Rien que dans la façon dont on est sur scène, on est quatre, piano, contrebasse, percussion, voix, on se rapproche quand même de la formation trio jazz plus voix. Et dans ces arrangements, voilà, c'était comme ça qu'on a voulu donner cette patte. Et tous les musiciens qui sont sur scène ont aussi une expérience dans le jazz. Donc il y avait une cohérence là-dedans.
Compañera forma una rueda para seguir.
album va donc sortir l'année prochaine. Il va s'appeler La Madrugada. Ça veut dire quoi ?
La Madrugada, c'est l'aurore. Et c'est le moment, en fait, où j'ai découvert le folklore argentin. C'est ce moment très tôt le matin où on ne voit pas encore le soleil, où on est plongé dans le silence coloré du matin. Il y a quelques étoiles qui persistent dans le ciel et c'est ce paysage dans lequel j'ai découvert le folklore argentin.
Donc un paysage qui commence un peu à rougeoyer. C'est pour ça le nom Le Rouge. Et puis la couverture, là, qui est effectivement plein de taches de coquelicots.
Alors, bon, Le Rouge, c'est avant tout un nom de famille, hein, réel, ce n'est pas qu'une
couleur.
Ah, c'est
votre nom.
C'est en tout cas le nom du côté de ma maman, de mon arrière-grand-père. J'ai un nom malgache beaucoup plus compliqué que ça, donc j'ai opté pour Le Rouge, mais c'est avant tout un nom de famille. Il se trouve qu'au final, certes, il y a pas mal de rouge dans l'identité visuelle du projet, les coquelicots et une série de photos qu'on a fait avec la photographe Anne-Laure Etienne, où on a voulu... De la même manière, rendre hommage à la fois à la tradition, puisque j'y figure sur cette pochette avec un foulard traditionnel argentin avec lequel on danse la samba, avec un Z toujours. Ouais. Et en même temps, ce côté assez actuel, puisque je porte une robe qui n'a rien à voir avec le folklore argentin, quelque chose d'un peu plus, on va dire, actuel, et dans un champ de coquelicots qu'on ne trouve pas forcément, en tout cas que je n'ai pas vu du tout de champ de coquelicots quand j'étais en Argentine.
Merci beaucoup Mandy Le Rouge, donc à l'aube d'une grande carrière, hein, on l'espère en tout cas. Le premier EP est donc déjà disponible et donc l'album l'année prochaine. Je précise que vous serez en concert le 23 mai au festival 369 à Paris, le 8 juin au festival Caravanserail de Marseille aux côtés de Roquette Traoré, d'ailleurs qu'on connaît bien sur RFI, le 29 juin à Pierre en Eure-et-Loir, le 18 juillet au Nocturne du Château de Vin sur Caramy dans le Var, et le lendemain au festival Musiqueras à Abriès en Queyras, et le 23 juillet, je crois que vous y tenez, au festival de Chailleul, ça se trouve à Savines-le-Lac dans les Hautes-Alpes, votre département d'origine, et ça continue au mois d'août. Merci beaucoup Mandy Le Rouge.
Merci beaucoup.
Vous m'en direz des nouvelles. Main d'œuvre. Main d'œuvre. Margot BD. Aujourd'hui, je suis
le drôle d'oiseau du Moulin Rouge. Alors ici, nous sommes dans l'atelier Février et en ce moment, on passe une commande du Moulin Rouge. On fait un boa, c'est des petits manchons en autruche frisée. Donc voilà, là je suis en train de sélectionner une trentaine de plumes pour faire toute la composition du tableau, de la robe, et on va les passer à la vapeur maintenant. Je suis Maxime Leroy, plumassier de la maison Février, la maison qui collabore avec le Moulin Rouge. Plumassier, c'est un peu comme un brodeur. À partir de la matière plume, on crée différentes choses pour le monde de la mode, du cabaret, du design, voire de l'art. Donc je viens de passer la plume à la vapeur. Ça a déployé toute la grandeur de la plume. Et en la tapant, tous les poils se déploient. C'est un effet très très velours. Quand on travaille pour le Moulin Rouge, on n'utilise que des plumes très très exclusives, les plus belles en fait. C'est les premiers tris, les premiers calibres. On dirait une fourrure. C'est assez extraordinaire. Donc maintenant que la plume est passée à la vapeur, on la refend. C'est-à-dire qu'on prend la plume et on sépare la côte, la structure du milieu, de toutes les barbes et les barbules, donc les poils qui sont de chaque côté. Donc j'ai un scalpel pour qu'on soit très près de notre produit. Une fois que j'ai obtenu mon tout petit morceau très très fin, je sépare, je trie pour calibrer mon boa et que ça fasse quelque chose d'homogène. Maintenant que j'ai tout sélectionné et tout posé devant moi au niveau des tailles, je vais chercher mon métier. Donc le métier, c'est la chose sur laquelle je crée mon boa. Ça ressemble à une sorte d'énorme réglé en bois avec des agrafes différentes tailles de chaque côté et on a des clous pour venir glisser comme un énorme peigne en fait. J'ai mon métier, je viens de le poser. Je commence ma base avec du marabout. Alors, le marabout n'est pas du marabout. Pour l'anecdote, c'est du duvet de dinde, en fait. On n'est pas sur l'oiseau d'Afrique. Ce sont que des plumes d'oiseaux d'élevage. Donc, ils sont impropres à la consommation. On n'est que sur de la plume de mue. Aucun oiseau n'est mort pour nos plumes. À l'aide du marabout, on vient cacher tout ce qui est technique, la base qui nous sert à faire notre bois. Donc voilà, les plumes sont préparées, j'ai ma base en marabout et toute mon application d'autruche. Je les enlève du cadre et je vais les passer à la machine. J'ai terminé, j'ouvre mon métier et je récupère mon boa à plat. Ici, on accroche notre boa. Céline, pouvez-vous prendre le boa s'il vous plaît à l'extrémité ?
Il n'y a pas de souci.
Donc voilà, maintenant, Céline tire le boa. On a une tension constante. pour créer justement, à l'aide du tourné, le volume qu'on veut. Alors en fait, grâce à la manivelle et à Céline, on fait tourner la corde et donc ça fait le volume du boa. Pour obtenir un effet de torsade et à la fin finir avec un boa rond, on part d'un aplat et on finit avec un rond. On termine de peigner le boa pour enlever tous les nœuds, pour avoir un vrai volume homogène, avoir une vraie densité de matière. Et maintenant, on va retourner à l'établi pour le friser. J'utilise un couteau à friser, c'est un couteau qui ne coupe pas et je le frise, un peu comme du bolduc. C'est un effet esthétique en fait, c'est une commande particulière par rapport au spectacle. J'ai terminé mon boa, il est frisé, maintenant je l'accroche. Je vais attendre que les habilleurs du Moulin Rouge viennent le chercher pour la revue de ce soir.
Aujourd'hui, j'étais...
le drôle d'oiseau du Moulin Rouge.
Sur RFI.
Un café gourmand, s'il vous plaît. Un café gourmand.
Le café gourmand, vous m'en direz des nouvelles.
Avec cette semaine, Hortense Vol, Carmen Lunsman, Amélie Beaucourt et Alain Pilot. Bonjour.
Bonjour Jean-François.
Bonjour Jean-François.
Bonjour.
Un peu de poésie dans un instant, grâce à vous Amélie.
Oui Jean-François, et c'est plus précisément du poète Arthur Rimbaud dont on va parler, puisque grâce aux éditions des Saint-Pères, on peut désormais lire ses plus grands chefs-d'œuvre à travers son écriture manuscrite, comme s'il venait de reposer la plume dans l'encrier.
Et avec vous Carmen, ce sera rock'n'roll aujourd'hui.
Bah, du reggae au rap, en passant par le rock, la musique a été en fait au premier rang dans le combat pour l'intégration des migrants, et ceci durant près de 30 ans. C'est ce qu'on raconte l'exposition Paris-Londres, Music Migrations, au musée de l'histoire de l'immigration à Paris.
Musique toujours, mais avec vous Alain, un nom qui évoque pourtant davantage la mode que la chanson.
Vous avez raison, puisqu'il s'agit de Lapidus, Yara Lapidus, styliste et désormais chanteuse, qui a su séduire le fameux compositeur de musique de film Gabriel Yared. Il a écrit toutes les musiques et réalisé son nouvel album Indéfiniment.
Mais on démarre ce café gourmand avec vous Hortense, vous êtes en direct de Praia, la capitale du Cap-Vert, où s'est achevée hier soir la 7e édition de l'Atlantic Music Expo, un marché et donc un espace de rencontre dédié aux professionnels de la musique, qui est aussi le seul événement musical de l'archipel à proposer des concerts gratuits, des concerts ouverts à tous, en même temps qu'un tremplin de visibilité aux groupes d'Afrique et du Cap-Vert.
Oui, Jean-François, et pendant 4 jours, la vieille ville de Praia, où siège l'ancien quartier colonial du plateau, a effectivement vibré en journée au rythme des showcases et des conférences auxquelles ont assisté des professionnels venus du monde entier, du Japon à la Norvège. 31 pays étaient représentés, et puis en soirée jusqu'à même très tard dans la nuit, ce sont des concerts en plein air et des DJ sets qui ont marqué le tempo.
Et parmi les artistes capverdiens et de la diaspora, qui comptaient pour moitié dans la trentaine d'artistes programmés, il y avait la chanteuse Neouza qui a retenu votre attention.
Comme la majorité des Capverdiens, Neouza vit loin de son petit pays, en l'occurrence aux États-Unis. Elle était donc enchantée de se produire à domicile.
Si.
Oui, Cap Verde, c'est un plaisir pour
moi.
Cap Verde,
comme ma mia tia dit,
comme dit ma tante, c'est le
chemin de ma
chambre. Je suis toujours là, je viens toujours deux fois, parfois en une année je viens cinq fois. Je ne peux pas vivre sans le Cap Vert, je dois être ici.
Neouza ne peut vivre sans le Cap Vert et sa musique en témoigne. Elle mélange les traditionnels morna et coladera, rendus célèbres dans le monde entier par Cesaria Evora, au rythme moins connu de l'île de Fogo. Son deuxième album, sorti en décembre dernier, a justement pour titre Badia di Fogo. Neouza nous en explique la signification en créole.
Badia di Fogo. Quand j'étais enfant, ma mère est tombée malade, elle a eu un cancer. Et comme on est de Fogo, on a un créole différent. Et ma mère, avant de partir, elle m'a donné une famille pour m'élever. Et les enfants de cette famille s'amusait, et toujours me faisait des plaisanteries parce qu'il ne connaissait pas mon créole, il m'appelait de Sampajuda, Badia de Batata, Coração de Barata, parce que je suis née à Praia, il m'appelait Badia, parce que les personnes de Santiago s'appellent les Badiou, et à Fogo, ma famille sont de Fogo, ils sont Sampajudo, donc il m'appelait Badia de Fogo.
Et sur le dernier album de Neuza figurent plusieurs de ses compositions, et notamment le titre « Isilda ».
Un titre écrit en hommage à sa maman que Neuza a perdue très jeune. Un titre qu'elle nous a offert en acoustique pour Session Lab, un programme en audio 3D à retrouver dès maintenant sur les réseaux sociaux de France 24 et de RFI.
Minha corpo já casta palemas, destino de bai, é magoado.
Parmi les artistes internationaux programmés cette année à l'Atlantic Music Expo Hortense, il y a le réunionnais Tiloun, les Mozambicains de Continua d'Ores, et puis des artistes que l'on connaît bien ici à RFI, le Guinéen Saul Banks, lauréat du prix Découverte en 2016, ou encore la rockeuse malgache Christelle, qui est une signature RFI Talent.
Dans un tout autre style qui devrait d'ailleurs plaire à votre invité du jour, et avec autant d'énergie et de fou que Christelle, eh bien j'ai pu assister au concert de celle qu'on appelle la reine de la New Cumbia, l'Argentine La Yegros. Son troisième album vient de sortir et il porte bien son nom, Suelta, Délivrance.
Jean-François, vous m'en direz des nouvelles.
Autre groupe à avoir retenu votre attention, Hortense, le duo franco-sénégalais Gis Gis Boubès, son ambition, faire découvrir au monde une autre facette du sabar.
À la fois nom d'un style de musique, d'une percussion et d'une danse, le sabar est au cœur de l'identité Wolof au Sénégal, comme en Gambie. Le percussionniste Doudoun Diarose, décédé en 2015, était l'emblème de cette tradition qui a du mal à s'exporter et à se développer, d'où l'idée d'un jeune musicien sénégalais, Marasek, faire vivre le sabar en le métissant avec de la musique électronique, sans oublier d'y ajouter une pincée de kébétou, un art traditionnel de déclamer dont il a hérité de son père, Feu Alasek, qui avait toute sa carrière en tant que parolier et danseur aux côtés de Youssou N'Dour.
Ouais, ben c'est ça, parce que c'est ça, c'est le rôle de griot, le kébétou. C'est genre comme la rap, mais il y a un peu de différence chez nous, Sénégal. Donc on met ça dans les sabars, avec les instruments, avec taman, tout ça. Donc c'est un autre style de faire ça. Donc l'héritage, c'est je prends ça de mon père. Il faisait ça parce que c'est le premier qui a incarné cette idée-là de faire ça dans les orchestres au Sénégal dans les années 70-80 avec la KC Star, orchestre Star Band, Étoile de Dakar, jusqu'à Super Étoile. Donc il a incarné ça jusqu'à aujourd'hui. Tout le monde copie de cette manière-là.
Le premier EP du duo Gis Gis Boubès Héritage est à paraître à la fin du mois, Hortense. Quant au nouvel et troisième album du Sud-Africain Bongeziwe Mabandla, vous avez pu en découvrir certains titres en exclusivité hier soir.
Chanter en Kosa ou en anglais, ils n'ont qu'un seul mot d'ordre, Jean-François, l'amour. Le public capverdien ne s'y est pas trompé et c'est devant une foule compacte et conquise par son afro-folk, Gombeziwe Mabandla, a magistralement clôturé la 7e édition de l'Atlantic Music Expo, un événement à taille humaine, véritable lieu d'échange entre les artistes, leur public et les professionnels de la musique qui ont tous pu goûter à l'âme créole et à sa fameuse Morabessa, ou comment douceur de vivre rime ici avec ouverture au monde, joie partagée et liberté de cœur et d'esprit.
Bongeziwe Mabandla sur RFI. Merci beaucoup Hortense, merci aussi à Benjamin Saralier qui vous accompagne dans ce magnifique archipel du Cap-Vert.
mettre en train, je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation.
C'est l'histoire de deux capitales européennes où musique et migration vont de pair avec mobilisation politique et lutte sociale. Paris-Londres, Music Migrations, le nom est programmé dans cette vaste exposition très sonore à l'initiative du Musée National de l'Histoire de l'Immigration à Paris. Il a réuni quelques 600 documents et œuvres d'art pour montrer à quel point les populations immigrées ont transformé le paysage musical des deux anciennes capitales coloniales en moins de 30 ans, des années 1962 à 1989, pour en faire Carmen deux villes cosmopolites ouvertes sur le monde grâce à la musique.
Et oui, l'idée en effet de cette exposition vient du désir de trois commissaires de raconter l'histoire de l'immigration autrement. Stéphane Malfette.
Au début des années 60, il y a une émancipation de la jeunesse à travers la musique. Et puis, officiellement, la date de 1962 correspond à un jalon historique. Hein, c'est la fin de la guerre d'Algérie et c'est l'indépendance de la Jamaïque.
Dans le Swinging London des années 60 avec ce qui est considéré comme le premier tube international d'une chanteuse jamaïcaine.
Millie Small et My Boy Lollipop, ils sont faits jusqu'à la seconde place dans le hit parade britannique en mai 64. C'est l'émergence du ska, l'optimisme des îles caribéennes qui fait se déhancher la foule dans les clubs de nuit de Soho ou de Camden Town. Et du côté de la scène, le yéyé, le rock'n'roll, le jeune Johnny Hallyday et les artistes maghrébins qui se feraient un chemin dans les salons de coiffure et des cafés de Barbès.
Get up, stand up.
Mais la partition va s'assombrir et les propos se radicaliser avec la crise économique dans les années 70 et le durcissement des politiques migratoires. Comment réagissent les artistes face à ce climat hostile, Carmen ?
Eh bien Jean-François, ils se lèvent pas forcément tous pour l'égalité des droits comme dans la chanson mythique du roi du reggae Bob Marley.
Eric Clapton a eu une séquence très très malheureuse dans sa carrière. À l'occasion d'un concert, il a repris des discours de propagande d'extrême droite d'Enoch Powell qui prédisait des rivières de sang si la Grande-Bretagne continuait à accueillir autant d'immigrés, qui a suscité une réaction de toute la communauté musicale. Comment ce type, qui s'est rendu célèbre en reprenant un morceau de Bob Marley qui incarne une révolte à ce genre de propos. Du coup, ces musiciens, c'était les Clash, c'était Steel Pulse, Sham 69, ont organisé très spontanément des concerts qui ont réuni plus de 100 000 personnes à Victoria Park pour se mobiliser contre le racisme.
Et tous ces groupes déclarent la guerre au racisme à travers le mouvement Rock Against Racism, mais le combat se joue aussi, Carmen, sur les platines.
Et il y a ce DJ engagé un peu allumé, Don Letts, fils d'immigré jamaïcain, qui fait en effet le lien entre les minorités, le reggae et le punk.
À Londres, à la fin des années 70, en pleine crise sociale, un ami à moi a ouvert le tout premier club punk rock, le Roxy. À l'époque, il n'y avait pas encore de disque de punk, alors je passais ce que j'aimais, du dub reggae. Heureusement pour moi, les punks l'aimaient aussi. La qualité des paroles, les basses, mais aussi l'herbe. Donc le Roxy était le parfait exemple d'échange entre les cultures.
Pour mieux comprendre ce personnage clé du métissage des genres, le musée lui consacre toute une vitrine.
Bah plutôt une sorte de cabinet de curiosité.
Sur cette photo, on dirait que Don Letts va se battre avec la police, un peu comme les gilets jaunes. Mais ce que vous ne voyez pas, ce sont tous les frères noirs armés de briques et de bouteilles, prêts à se battre. Et je me dis, il faut que je me tire.
Cette photo assez légendaire a été captée en 76 au Carnaval de Notting Hill, autre grand mouvement de contestation à Londres qui passe par la musique. Angeline Escaffré Dublé, autre commissaire de l'exposition.
Cette histoire du carnaval de Nottingham, c'était le travail d'une communauté et une résistance qui au départ s'est pas fait sans heurts. Elles ont rencontré une opposition de la police tout à fait dramatique. Donc on a trouvé dans les archives de Londres tous les problèmes que ça a posé, notamment une lettre savoureuse d'un révérend qui trouve que ça fait beaucoup trop de bruit dans son jardin, qu'il a trouvé deux personnes en train de forniquer et qu'il serait temps que cela cesse. Et que fait la police?
Qui nous ramène en France où des concerts s'organisent un peu plus tard, au début des années 80, pour dénoncer les violences policières et le racisme sous la bannière de Rock Against Police.
Beaucoup de va-et-vient et de parallèles dans les évolutions et les revendications musicales liées à l'immigration des deux côtés de la Manche. Qu'est-ce qu'il faut retenir au fond de cette exposition, Carmen ?
La quête en bas pique.
Quand on a commencé à réfléchir à cette exposition, le terme de Brexit n'existait même pas.
Et on veut montrer qu'il y a beaucoup de choses qui rejoignent Paris et Londres et qu'on est plus proche qu'on est éloigné. Et c'est peut-être un pied de nez à ce Brexit.
Paris-Londres Music Migration, c'est une exposition engagée et immersive, donc à explorer en musique et en images. C'est jusqu'au 5 janvier 2020 au Musée de l'Histoire de l'Immigration à Paris. Merci Carmen.
Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue.
Tenir les carnets de poésie d'Arthur Rimbaud entre ses mains, c'est désormais possible. Les éditions des Saint-Pères, spécialisées dans l'édition de facsimilé, viennent de publier les manuscrits du célèbre poète, l'occasion de découvrir des pièces uniques, signées de la plume d'un auteur au parcours véritablement hors du commun. Mais des pièces, Amélie, qui ont failli ne jamais se retrouver entre nos mains.
Oui, Jean-François, Arthur Rimbaud, ses premiers vers, il les a écrits vers 14 ans, quand il était encore à l'école. Et ses derniers remontent à ses 21 ans. Ça fait donc une carrière de poète assez courte, me direz-vous. Pourtant, réunir 7 ans de poésie, ça demande un très gros travail. D'abord, il faut recenser toutes les pièces existantes, les localiser et contacter leurs différents propriétaires. Oui, parce que tous les manuscrits d'Arthur Rimbaud n'attendent pas tous sagement dans les archives d'un musée. Ils sont dispersés entre plusieurs collectionneurs, publics et privés. Jessica Nelson, l'éditrice des manuscrits, raconte comment son équipe s'y est justement prise pour les rassembler.
On a mis un peu de temps à vraiment tout rassembler, à organiser. Donc il y a un gros travail qui est fait sur chacune des images du recueil. Et c'est vrai qu'on est allé donc récupérer les images alors à Londres, à la British Library, à la Fondation Bodmer en Suisse, à Charleville-Mézières, à la BNF. Et donc ça a été un travail patient, minutieux. L'objectif a été de leur donner une cohérence et une certaine forme d'harmonie, en fait, pour que vous ayez l'impression que Rimbaud ou Verlaine, puisqu'il a recopié quelques poèmes, venaient ou viennent de poser le point et la signature en bas du document.
C'est vraiment l'impression qu'on a d'ailleurs, celle de lire directement les carnets de Rimbaud, ou plutôt ses cahiers d'écolier, parce que ce que permet cet ouvrage, c'est aussi de découvrir son écriture, sa graphie. Et l'écriture d'Arthur Rimbaud, c'est celle d'un collégien. Elle est très gracieuse et très soignée, un peu comme lui à l'époque.
Il a une graphie qui est extrêmement jolie, qui est ronde, qui est appliquée. C'est là aussi peut-être où transparaît son extrême jeunesse. Il a une graphie qui est très agréable et qui est évidemment du coup accueillante. Ce qui n'est pas le cas de tous les manuscrits, parce que un manuscrit, il a ceci de fascinant qui vous permet d'entrer dans l'intimité d'un auteur. Et là, on entre dans l'intimité d'un Rimbaud qui s'applique quand même. Même s'il y a des ratures, même si évidemment il va se reprendre. Et il y a même certains poèmes qui sont écrits en plusieurs versions. Donc c'est très probablement qu'il a dû chercher, qu'il a dû se reprendre. Mais c'est vrai que ça vous permet d'approcher l'homme, en tout cas le jeune homme, de façon différente.
Les écrits s'enchaînent de façon chronologique. On découvre donc d'abord ses premiers vers. On tombe ensuite sur ses Illuminations, l'un des plus célèbres recueils de poèmes de Rimbaud. On y trouve aussi des lettres, des pastiches, des croquis. Le but était d'être le plus exhaustif possible pour avoir la vision la plus complète du parcours de ce jeune poète prodigieux.
Et pourtant, tous les écrits de Rimbaud ne s'y trouvent pas.
Effectivement, Jean-François, en fait, réunir l'œuvre entière d'un écrivain, c'est déjà très difficile, mais ça l'est encore plus quand il s'agit d'Arthur Rimbaud en personne, parce qu'il a lui-même compliqué la tâche des archivistes. Et c'est le chercheur André Guyot, qui est éditeur des œuvres complètes de Rimbaud à la Pléiade, qui l'explique.
Rimbaud était quelqu'un qui, en même temps, composait, a laissé une œuvre littéraire, et puis aussitôt après, on dirait, à chaque fois qu'il y a un poème comme ça, il l'abandonne. Enfin, il y a une espèce d'esprit de conservation qu'il n'a pas et que ses amis ont à sa place, en particulier Verlaine. Si Verlaine n'avait pas été là, le manuscrit de Rimbaud, il n'était pas sauvé, et son œuvre, on n'en aurait presque rien. Mais heureusement, il était là, il a joué son rôle d'archiviste, de conservateur du document, même de copiste, puisqu'il a lui-même transcrit des poèmes, dont le fameux Bateau ivre, dont Les Assis, qui sont des poèmes qu'on ne connaîtrait pas s'il n'y avait pas la transcription de Verlaine.
Alors un grand merci à Paul Verlaine, sans qui nous n'aurions jamais eu à apprendre par cœur le Bateau ivre avant de le réciter devant toute la classe, mais sans qui nous n'aurions jamais pu l'entendre si joliment interprété par la comédienne Fanny Ardant.
Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidée par mes haleurs. De peaux rouges criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus au poteau de couleur. J'étais insoucieux de tout.
Mais il y a par contre un autre poème de Rimbaud qu'aucun écolier n'aura jamais à apprendre et que vous ne pourrez jamais lire au coin du feu, Jean-François, parce qu'il a tout simplement disparu.
Quand Verlaine raconte que le plus beau poème de Rimbaud, ça s'appelait L'Éveilleur, et qu'il croit bien que c'est perdu, et voilà, ça s'est confirmé, c'est perdu, et probablement à jamais. Ce qui est triste, parce que ça c'est toujours un deuil, c'est qu'on ait perdu des textes. Ce que Verlaine considérait comme le plus beau poème de Rimbaud, L'Éveilleur, on l'a pas. Mais on a tout le reste, c'est déjà pas si mal.
Il y a d'ailleurs peu de chances de retrouver d'autres écrits d'Arthur Rimbaud, déjà parce qu'il n'a pas eu d'enfant, et puis parce que la ferme dans laquelle il a grandi, dans les Ardennes, et dans laquelle il a, semble-t-il, écrit plusieurs de ses poèmes, a brûlé. Pourtant, une petite part d'espoir subsiste encore dans le cœur de ses plus fervents admirateurs. L'année dernière, par exemple, une lettre d'Arthur Rimbaud a été retrouvée, une lettre qui date de 1874, à l'époque où il vit à Londres, et dans laquelle il évoque mystérieusement un recueil de poèmes qu'il avait envie d'écrire, et dont on n'a d'ailleurs aucune trace. Mais qui sait, on finira peut-être un jour par le retrouver dans le tiroir d'un vieux secrétaire ou dans un grenier.
Qui sait, Amélie Beaucourt dans le Café Gourmand de VMDN. Yara Lapidus, encore sur son nouveau disque composé et réalisé, on le disait tout à l'heure, par Gabriel Yared, Alain.
Gabriel Yared qui apparaît également ici. Leurs origines libanaises les ont sans doute rapprochées. Toujours est-il que Yara Lapidus a été la première à qui le musicien a accepté de mettre un texte sur un passage de sa BO de 37.2 le matin.
Je n'ai pas eu à le convaincre. Au bout de la 10e chanson qu'il avait composée autour de ma voix, ça s'est un peu imposé parce qu'on avait déjà fait un tango, enfin une forme de tango, une forme de bossa nova, etc. Et on se demandait dans quelle direction aller pour faire notre 11e et dernière chanson. Et là, je me retourne dans son studio où j'enregistrais les maquettes et je vois l'affiche de 37.2 le matin. Et devant mon émerveillement, il me dit « Tu sais quoi, j'ai déjà refusé toutes les adaptations, tu vas être la première à écrire un texte pour cette chanson. » Et évidemment, j'ai adoré l'idée.
Gabriel Yared n'est pas que sur cet album, hein, puisque est également présent Iggy Pop pour le même titre, Yara Lapidus à votre micro. Voilà.
Là encore, ça doit être une question d'alignement d'étoiles. C'était un rêve pour moi d'avoir un duo avec lui, parce que j'ai toujours adoré son interprétation dans les chansons françaises. Lorsqu'il a chanté Brel, il y a quelque chose dans sa voix de très émouvant, son accent aussi. Et bien sûr, il était en haut de ma wish list, on va dire. Et plus le rêve est difficile, plus je vais m'y accrocher. Et il a fallu une personne entre nous, quelqu'un qui le connaissait. Et c'est venu de lui. Il me dit, je suis sûre que ta personnalité va matcher avec lui. Tu vas envoyer le disque. On ne sait pas ce qu'il va dire. Rien n'est gagné, mais tu vas le faire. Donc je lui ai écrit un mot. Je lui ai dit, je sais que je jette une bouteille à la mer. Je sais que c'est quelque chose de fou, mais why not? Si jamais vous êtes tenté, et il m'a répondu quelques jours plus tard. Il avait adoré l'album et il était très heureux de faire ce morceau. Et je l'ai senti lors de l'enregistrement.
Le temps ne pourra rien contenir. Nos cœurs se fondent.
Encore, Yara Lapidus en duo, cette fois avec Iggy Pop, artiste marquant pour elle. Mais quel impact la musique libanaise a-t-elle pu avoir sur Yara Lapidus, originaire de ce Liban qu'elle considère comme son père et la France comme sa mère?
C'est très curieux en réalité, parce que lorsque j'étais enfant, je n'écoutais pas particulièrement la musique orientale. Elle ne me touchait pas puisque je baignais quelque part dans cet Orient. C'est uniquement lorsque j'ai quitté le Liban, alors est-ce le côté enfant du pays qui est parti, la nostalgie, quelque chose de tout cela mélangé, et que j'ai commencé à écouter Oum Kalthoum, bien qu'elle ne soit pas libanaise, Fayrouz, bien qu'elle ait une tonalité beaucoup plus aiguë que la mienne, mais quelque chose m'a vraiment frappée et touchée, et j'y suis venue peut-être par nécessité.
Il n'est pas libanais, mais israélien. Adnan Joubran, le joueur de oud du trio Joubran, est également au générique du disque.
Adnan, j'aime beaucoup, mais je le connaissais à travers surtout le trio Joubran, et pas particulièrement lui tout seul. Donc j'ai demandé à le voir, et au moment où je lui envoie un message pour le voir, il se trouvait à Paris. On s'est vu dans un café. Il est venu très gentiment à mon premier concert au Silencio. Il m'a accompagné en live, et puis après, ce morceau était tellement particulier pour lui, vu ses origines palestiniennes, moi libanaise. C'était comme une évidence pour moi que Adnan y mette sa ponctuation personnelle.
Puis toi, plus rien, de rien, plus rien, de rien ne tient debout. Tout en moi.
Depuis toi, Yara Lapidus et Oud Adnan Joubran sur cet opus baptisé Indéfiniment.
Ce mot est assez magique et je trouve qu'il colle parfaitement. C'est surtout pour l'intemporalité. Et puis j'aime bien cette éternité qui s'en dégage. Il y a quelque chose d'infiniment petit, d'infiniment grand. On ne sait plus où on est dans l'espace. Et j'aime bien ce côté pas très précis, quelque part.
Merci infiniment, Yara Lapidus.
Merci à vous, Alain. À bientôt.
Indéfiniment. Évidemment, quelques larmes coulent pour sécher au fond.
Indéfiniment, le titre album de Yara Lapidus sorti chez Yara Music, l'autre distribution. Merci Alain, merci aussi à Hortense, Carmen et Amélie. Dans un instant, l'offre
sera bien plus beau que tous les autres.
Évidemment lundi avec le comte Paul de la Panouse, mesdames, messieurs, pour son beau livre DVD Une aventure sauvage qui raconte l'histoire du château et du parc animalier de Thoiry et notamment de sa réserve africaine. C'est paru aux éditions de l'Archipel et vous m'en direz des nouvelles.